Et bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. En route pour votre émission Scénorama spécial Printemps des comédiens. Et comme chaque année, nous sommes installés dans la pinède du domaine d'eau, sous le chapiteau. L'accueil est comme d'hab au top. Et voilà, et un grand, grand merci à toute l'équipe. Alors pour cette première émission, j'ai invité Aimé Rosier pour sa formidable prestation dans une structure qui ne passe pas inaperçue, le silo installé sous cette pinède. Je parle de L'Absolu de Boris Gibé, un spectacle dont la beauté visuelle prend le pas sur le sens et l'émotion, à voir ce vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 à 20h. Un conseil, réservez vite. Et si on vous dit, si vous voyez sur le site du printempsdescomédiens.com, si c'est affiché complet, venez sur place à la billetterie, il y a toujours des places. Voilà. Et puis sinon, si vraiment c'est complet, eh ben vous prendrez un verre sous la pinède ou mangerez un petit morceau. C'est toujours très agréable d'être ici. Alors, donc ensuite, après Aimé Rosier, eh bien, j'aurai Léa Drouet qui nous présentera Violence. Elle est à la conception, à l'écriture et à l'interprétation de ce spectacle. Il s'agit d'une véritable performance dans tous les sens du terme, à découvrir vendredi, samedi, dimanche au Hangar Théâtre à 19h. Et enfin, Camille Dalloz, metteur en scène de la compagnie Le Cri des Veaux, nous dira tout, ou presque, sur sa prochaine création intitulée Génération. Il s'agit plutôt d'une étape de travail à voir samedi 11 à 17h30 à l'espace Mico Coulier, ceci dans le cadre des warm-up initiés par Julien Bouffier. Aimé Rosier, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que votre temps est compté. Vous jouez dans L'Absolu, un spectacle ovni comme on les aime. Vous êtes acrobate et si je ne me trompe, vous êtes juste à la fin de votre cursus au sein de la prestigieuse Académie Fratellini.
Oui, exactement. Je devrais finir l'académie là le 16 juillet, mais le contrat s'arrête en août. Et ça fait 3 ans et j'ai fait 1 an de pré-apprentissage juste avant. Donc ça fait 4 ans que je suis à l'Académie Fratellini.
Ah oui. Et alors comment on rentre dans cette fabuleuse école ?
Eh bien, en fait, par sélection. Donc il y a 3 écoles supérieures en France, le Lido à Toulouse, le CNAC à Châlons-en-Champagne et Fratellini à Saint-Denis. Et les 3 sont d'abord une présélection sur dossier et ensuite certaines personnes sont sélectionnées pour venir passer les concours directement à l'école. Et là, c'est une semaine de sélection et donc sur 200 dossiers, je dirais, au départ, il y a à peu près, à l'Académie Fratellini, il y a peu de places, il y a à peu près une quinzaine de places chaque année.
Waouh, oui, c'est peu. Donc ça veut dire que vous êtes très fort.
Non, je crois pas. C'est aussi certains types de profils. Chaque école a ses spécificités. Il y a des écoles plus techniques, des écoles plus créatives. Et du coup, voilà, c'est aussi chercher des profils que l'école peut accompagner avec les outils qu'elle a.
Donc. Et du coup, alors quelles sont les spécificités de cette académie ?
Eh ben, la grosse spécificité de cette académie, c'est que c'est une école en apprentissage. Donc nous, en tant qu'élèves, on a le statut d'apprenti. On est employé par l'Académie Fratellini, c'est-à-dire qu'on est payé chaque mois. Et On peut être amené à faire des temps professionnels. Donc parfois, c'est des temps professionnels qui sont compris dans le cadre pédagogique de l'école, c'est-à-dire des spectacles de Noël où on fait 15-18 représentations. Ou alors, parfois, c'est une compagnie qui a besoin d'un apprenti, d'une apprentie et qui vient demander à l'Académie Fratellini est-ce que c'est possible d'employer une acrobate, un acrobate pour tel spectacle. Et l'Académie dirige vers la personne qui semble la mieux disposé à répondre.
Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour vous avec ce spectacle, l'Absolu.
Ouais, et exactement. En fait, au moment où Boris a commencé à faire une reprise de rôle, il a voulu employer aussi une jeune personne, parce que lui, il aurait bien aimé, étant jeune, avoir une expérience comme celle-là. Et du coup, il s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une reprise de rôle à plusieurs, ça sera plus marrant. Et donc, il est allé voir d'abord Knack pour demander si c'était possible, et cette structure ne le permettait pas. Après, il est allé voir l'Académie Fratellini, et c'est fait exprès, donc l'Académie Fratellini a dirigé Boris Gibé vers moi.
D'accord. Alors moi, j'ai pu voir l'Absolu avec Boris, mais alors j'ai vu, vous êtes deux. Du coup, enfin trois au total, hein, je veux dire, à vous relayer. Donc, là, qui est la troisième personne et d'où vient-elle?
Eh bien, la troisième personne s'appelle Pier Giorgio Milano. Et du coup, c'est un ami de Boris et qui est danseur circassien. Il a fait le Lido étant jeune et après, il a fait beaucoup de stages de danse à Bruxelles. Et voilà, il est aussi auteur-créateur de plusieurs pièces.
D'accord. Alors, l'Absolu, c'est vraiment une sacrée performance. C'est très physique, c'est hyper technique. Comment vous préparez-vous?
Eh ben, alors.
Là, par exemple, après cette interview, puisque le spectacle a lieu à 20h, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh ben, ça dépend un peu des jours, en fait. Déjà, ça dépend des. Souvent, on en joue 5, voire 10, voire 15. Ça dépend un peu des moments. Là, j'ai un peu mal au genou. Donc je peux pas faire de choses trop physiques. Normalement, j'ai tendance à bien m'échauffer, des courses et tout ça pour augmenter le cardio. Là, je fais plutôt des mouvements de mobilité, de souplesse. Et après, j'essaye aussi de me mettre un peu dans des improvisations de danse, de corps, parce qu'il y a pas mal de qualités un peu que j'ai encore du mal à avoir très très bien. Donc j'essaye toujours de bosser une petite partie du spectacle pour améliorer une petite partie chaque jour.
D'accord. Alors, la création du silo s'inscrit dans une recherche de scénographie singulière que Boris Gibé mène depuis ses débuts avec sa compagnie Les Choses de Rien, il y a plus de 15 ans. C'est quand même. Je l'ai vu physiquement, enfin, je ne sais pas quel âge il a, mais il fait gamin, hein, enfin, il fait jeune. C'est quoi ça conserve de faire ce genre de, comment dire, de performance. Alors, pouvez-vous nous expliquer le but de ce travail de Boris, de ces scénographies comme ça, toujours très singulières?
Eh bien, alors, je ne pourrais pas répondre dans l'ensemble du travail de Boris parce que je ne le connais pas exactement et c'est difficile. Mais alors, j'ai l'impression que pour cette création, et il ne me coupera pas si je me trompe, mais c'était de faire une expérience un peu immersive pour le public, que la place du spectateur, de la spectatrice, soit vraiment, elle aussi, physiquement engagée. Et du coup, d'où l'idée de cette structure, de ces strapontins, de ces enceintes qui sont derrière et de cette position en fait, qui est un peu étrange, où on regarde à la fois vers le bas et vers le haut. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que le point de départ, c'était ça.
Oui, alors est-ce que vous voulez nous décrire un peu plus cette structure incroyable qui est le silo? Je disais, dans la Pinède, on la remarque direct, elle est magnifique. Enfin, moi, j'adore ce genre de structure comme ça, en acier. Et évidemment, ça interpelle. Et là, vous pouvez nous décrire un peu plus l'intérieur? Il y a une maquette d'ailleurs dehors que les spectateurs peuvent regarder.
Eh bien, alors c'est tout de fer et de métal. Donc ça ressemble, de l'extérieur, ça ressemble à un silo à grains. C'est un silo qui fait 12 mètres de haut et 9 mètres de diamètre. Il y a deux entrées. Ces deux entrées sont deux escaliers qui montent en colimaçon. Et les spectateurs et spectatrices sont assis sur des strapontins qui sont dans ces escaliers en colimaçon. Le but aussi, c'est d'avoir une boîte noire, c'est-à-dire que quand on rentre à l'intérieur, si toutes les lumières sont éteintes, on ne voit rien. Bon, il y a toujours des petites fuites de lumière. Et voilà. Et du coup, les spectateurs, spectatrices sont face à face. Et l'espace scénique, c'est tout l'espace central.
Oui, c'est vraiment très impressionnant. C'est magnifique. On ne va pas tout dévoiler parce que justement, il faut garder la surprise. Mais ce travail sur l'espace est associé à une réflexion métaphysique. Quelle est-elle ?
Eh bien... pareil, je n'oserais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas l'auteur. Alors évidemment, il y a la naissance, la mort, et puis l'existentialisme aussi, les éléments.
Oui, les éléments sont très présents. La terre, l'eau, le feu, l'air. Il y a une relation en fait très forte avec ces éléments et vous-même. Hein. Et donc, ça peut être facile hein, quand même de maîtriser tout ça.
Eh ben non. Ben là, au bout de à peu près les 40 représentations que j'ai jouées, je commence à être beaucoup plus à l'aise. Ouais. Mais au départ, c'était quand même assez délicat parce que la partition est quand même très étrange. On s'étouffe, on se brûle,
oui.
on saute dans le vide. Et voilà, et petit à petit, c'est plutôt de plus en plus agréable, en fait. C'est aussi marrant, un enjeu. Il y a toujours un peu de risque, toujours un peu de piment, quoi.
Oui, j'imagine. Oui, c'est un peu comme sauter en parachute lorsqu'on est au bord de l'avion, là, qui a l'air qui vous prend là, dans la tête. Et que, voilà, et c'est le saut. C'est un peu... Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça, du coup. C'est vraiment jouer avec, avec l'air et les autres les éléments. Alors voilà, l'absolu, eh bien, c'est entre danse, acrobatie, aérienne, engagement physique, je dirais assez insensé, des illusions d'optique et un récit kafkaïen. Voilà un cirque métaphysique pour une expérience vertigineuse, comme les toutes quêtes d'absolu, parce que c'est vraiment... c'est une quête d'absolu aussi pour vous.
Carrément.
Voilà, donc à voir ce vendredi, samedi, dimanche à 20h. Un grand merci, Aimé Rosier, et bonne représentation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, vous êtes sur Radio FM+, dans votre émission Scénorama. Léa Drouet, bonjour.
Bonjour.
Alors, si je ne me trompe, c'est une première pour vous ici à Montpellier ?
Oui.
Et en particulier pour le Prêteur des comédiens ?
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça fait ?
Ben, il fait plus chaud qu'à Bruxelles.
Parce que vous êtes toujours basée à Bruxelles ?
Oui. Ça fait 15 ans que j'habite à Bruxelles.
D'accord. Il me semblait que vous aviez fait un petit retour en France. Non, on est bien
non,
là-bas.
Non, on est très bien là-bas.
Oui. Je pense que les artistes, ils sont bien aussi. Hein.
Oui.
On est d'accord. Alors, vous êtes diplômée de l'Institut National Supérieur des Arts de la Scène de Bruxelles, en section mise en scène. C'était en quelle année ?
Oula, il y a 15 ans.
Ça fait un moment. D'accord. Vous avez 30 ans ?
J'ai 40 ans.
Oh. Ouais. Vous ne les faites pas. Hein.
Ah, merci.
Oh non, c'est vrai.
Je les ai eus il y a 3 jours.
Ah zut. Alors, quels sont depuis la sortie de votre sortie de cette école, les grandes étapes de votre parcours professionnel ?
J'ai commencé. L'école que j'ai faite, elle mettait un peu le texte au centre. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une. Enfin, il y a eu traditionnellement une hiérarchie entre le texte, le corps des acteurs, la scénographie, la lumière et tout ça. Et dès l'école, j'ai essayé de faire en sorte que les différents corps qui composent le spectacle, en fait, soient traités de manière égalitaire. Donc, il n'y ait pas de hiérarchie entre le corps lumineux, le corps sonore, le corps de l'acteur, le corps du texte. Et ça a un peu fondé cette espèce de pas de côté par rapport à l'école et à ce qu'on me demandait. Ça a un peu fondé les lignes un peu de force de la suite. Et donc, il y a eu tout un temps où j'ai abandonné le texte parce que voilà, je trouvais qu'il y avait un peu trop de textocentrisme au théâtre. Et là, pour Violence, c'est la première fois que le texte réapparaît. Et moi, j'ai fait une formation de comédienne et j'étais pas dans mes projets. Et c'est la première fois que je me réengage, enfin que je réengage mon corps et ma voix dans un projet que je fais. C'était en lien avec aussi le besoin de m'impliquer politiquement sur certaines scènes et de quitter en fait le statut de témoin ou de que j'avais vis-à-vis des événements qui se passent en ce moment et surtout en particulier par rapport à la migration.
Oui, voilà, là vous avez répondu pratiquement à toutes mes questions.
Pardon, hein. Mais je peux développer.
Là, ça y est, hein, vous êtes
Je peux développer.
On va développer, c'est clair.
On peut faire des zooms.
Donc, violence au pluriel, donc vous abordez la question de la violence, des violences. Pourquoi avoir fait ce choix en particulier?
Alors, moi, je m'intéresse depuis longtemps, mais en tant que militante, aux violences structurelles et institutionnelles. Et là, il s'est passé un événement en Belgique qui a un peu, qui a incarné un peu tous les dysfonctionnements institutionnels en même temps, à savoir la police, la justice et les médias. Et donc, c'est comme si cet événement tragique condensait un peu tous ces dysfonctionnements et toutes ces violences au pluriel. Et c'est pas que je m'intéresse à la violence, c'est que cet événement m'a vraiment fait violence. Donc pour le dire rapidement, c'est une petite fille de 2 ans et demi qui a été tuée par un policier d'une balle dans la tête. Et une petite fille kurde, irakienne. Et à ce moment-là, j'étais maman d'une petite fille de 5 mois. Et en gros, voilà, cet événement m'a fortement fait violence et je voulais m'en approcher, en fait. Oui. Je voulais à la fois m'approcher de la violence, puisque, en fait, des événements tragiques ou violents, il y en a beaucoup, et on nous les raconte beaucoup dans les médias. On nous les raconte d'une manière plutôt morcelée, souvent. Donc, on prend pas la mesure, en fait, de cette violence, sensiblement. Et à la fois, elle recouvre les histoires de résistance. C'est-à-dire que ces histoires de violence viennent nous... nourrir notre impuissance, quoi, notre sentiment d'impuissance. Et du coup, il y avait un double mouvement dans cette pièce, c'est me rapprocher de cette histoire de violence, en prendre la mesure, puisqu'on est dans une Europe qui... il y a un état de déshumanisation des corps qui est quand même assez élevé. Je pense qu'on n'en prend pas suffisamment la mesure, enfin moi-même. Et en même temps, je voulais décadrer mon regard, déplacer mon regard sur les gens et les groupes de gens qui font en sorte que les choses soient moins violentes qu'elles pourraient être s'ils n'étaient pas là, donc les groupes de résistance, les groupes de soutien, les groupes de solidarité.
D'accord. Voilà. On va écouter un petit extrait.
La mère de Maouda se trouve à gauche dans la camionnette, dos au passeur. Elle porte Maouda dans ses bras. Et elle regarde en direction de l'arrière de la camionnette. Le père, lui, se trouve en face d'elle et il porte leur fils.
Il est accusé d'être le passeur. L'homme risque plusieurs années de prison.
Par la fenêtre du conducteur, il aperçoit un policier avec un revolver qui pointe son arme en direction de la camionnette blanche. Ce policier se trouve dans une voiture qui, elle, vient à peine de rejoindre l'opération.
Extrait de violence de et par Léa Drouet. Léa, dans cette pièce performative, vous expérimentez de nouvelles dramaturgies?
Ben, disons que j'essaye de rendre sensibles ces problématiques, parce que, enfin, on aurait tendance à aborder ce type de problématique ou de théâtre dit documentaire d'une manière très, je sais pas, très factuelle ou quoi, comme s'il y avait une vérité qui s'énonce. Et j'essaye de croiser en fait mon goût de l'art sensible, donc de la musique, de la scénographie et tout ça, et des problématiques de sciences sociales en fait et de société. Et donc je sais pas si c'est, j'invente des nouvelles dramaturgies du tout, je pense pas, mais ça doit être une phrase du dossier.
Par rapport à votre travail habituel, je veux dire, parce que là, j'ai pu voir une vidéo dont nous avons tiré l'extrait. Vous utilisez différents médiums et supports.
Ouais.
Qui n'était peut-être pas systématique dans vos pièces précédentes.
Ben justement, si, en fait. Je pense que c'est plutôt le texte qui n'était pas systématique dans les pièces précédentes. Les pièces précédentes...
Oui, là, pour vous, c'est un retour au texte, en fait.
Voilà, c'est ça. Oui, vraiment. En fait, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est que j'étais plutôt habituée à être en contact avec des gens qui faisaient plutôt de l'art plastique que de la scénographie. J'étais plutôt habituée à travailler avec des musiciens, c'est encore le cas là, qui sont des musiciens par ailleurs, et pas seulement des personnes qui font de la musique pour le spectacle. Là, c'est Helg. Et donc là, c'est plutôt l'apparition du texte qui est nouveau pour moi.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Et donc, justement, au niveau narratif, outre cet atroce fait divers, vous avez eu d'autres sources d'inspiration ? Comment avez-vous travaillé ?
En fait, j'ai essayé de mettre en écho, sans créer d'équivalence, entre une histoire qui est plutôt une histoire familiale, qui est ma grand-mère qui a traversé la ligne de démarcation. Quand elle avait 10 ans pendant la Seconde Guerre mondiale pour fuir des rafles à Paris et qui s'est cachée chez un paysan vers Vichy. Et donc elle a traversé cette ligne de démarcation sans ses parents, avec un groupe et un passeur. Donc je raconte la nuit de cette traversée et j'essaye de l'articuler à la nuit de la traversée de Maouda, qui, elle, a eu une fin plutôt malheureuse, alors que ma grand-mère, c'était plutôt une fin heureuse, puisqu'elle a... Et en fait, par la mise en relation des deux récits, j'essaye de dire, voilà, en fait, le passeur de la Seconde Guerre mondiale, selon notre point de vue, est considéré comme un héros, alors qu'aujourd'hui, il est vraiment diabolisé. La petite fille juive qui passe une ligne de démarcation, on a beaucoup de sympathie aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ces enfants, ces autres enfants, voilà, qui traversent les frontières, et de voir un petit peu les différentes relations en fait qu'on a suivant l'histoire et selon le point de l'histoire dont on se situe sur des personnages comme par exemple le personnage du passeur.
Oui. Donc violence au pluriel.
Ouais.
Voilà, et donc c'est à voir ce vendredi, samedi et dimanche à 19h au Théâtre du Hangar. Léa Drouet, d'autres dates prévues, des projets ?
Sant' Arcangelo, la prochaine étape, le festival en Italie.
Oui.
Et puis CCAM, et puis un autre projet qui sera dans ce festival dans un an.
Ah, voilà. Super, ouais. D'accord. Bon, écoutez, très belle continuation.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir invité.
À bientôt. Vous reconnaissez votre musique générique de Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle. Et comme chaque année, nous sommes installés au Domaine d'Eau pour le printemps des comédiens. Nous sommes au bout de la Pinède, sous un magnifique chapiteau. Franchement, là, on a un petit coin salon. Là, c'est vraiment hyper confort et l'équipe nous accueille toujours superbement bien. Alors pour mon troisième invité, eh bien, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est Camille Dalloz. Bonjour Camille.
Bonjour Annick.
Alors vous êtes comédien, metteur en scène, auteur. Vous êtes formé au Conservatoire National de Région ici à Montpellier. Vous avez créé votre compagnie Le Cri des Veaux en 2011. Vous développez une démarche artistique autour des écritures contemporaines, des projets participatifs et du décloisonnement des publics. Ça, c'est vraiment une de vos spécificités, hein, Camille.
Eh bien oui, sans qu'on s'y attende, en fait, on s'est retrouvé dans plusieurs nouveaux schémas de création ces dernières années, où on a été amené à rester un petit peu durablement dans des milieux, donc que ce soit des collèges, des lycées, des villages. Et puis, toute la démarche de la compagnie, ça a été vraiment de faire se rapprocher une œuvre, un spectacle, une compagnie et des habitants participant selon les créations.
Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Vous êtes au plus proche des habitants et vous organisez beaucoup d'ateliers. Enfin, voilà, vous les faites participer aussi. Enfin, en tout cas, ils ont une action, on va dire, oui, une action avec vous, hein, c'est ça.
C'est ça. Il y a deux types d'actions de la part des participants. Soit ça s'intègre à l'intérieur d'une création partagée, donc à savoir que les participants amateurs sont au plateau avec les comédiens professionnels, ou alors c'est un travail d'immersion, de rencontre, d'infusion avec les publics qui nous permettent de créer des spectacles.
Oui. Alors du coup, vous faites ça dans toute l'Occitanie? Vous avez plutôt des points où vous êtes particulièrement accueillis ou des...
Alors oui, sur le territoire de l'Occitanie, maintenant, on a commencé à rayonner, comme le dit ce beau terme culturel.
La réputation est faite, là.
et puis, là, plus spécifiquement, et c'est le projet dont on va parler, mais on a un peu grillé une case, on va dire, c'est qu'on est directement passé de l'échelle régionale à l'échelle européenne, puisque le prochain projet est un projet européen.
Mais oui, j'ai lu ça, vous avez fait très fort, dites donc. Alors, mais comment on fait, voilà, pour faire partie d'un projet européen?
Alors, comment on fait, Annick? Eh ben, c'est assez simple.
Des dossiers à remplir.
Au mois d'avril 2020, je m'ennuyais un peu. Parce qu'il y avait une petite période un peu au ralenti, on va l'appeler comme ça, si ce n'est pour pas nommer les mauvais mots.
Je ne m'en souviens guère.
Et puis, pour m'occuper, j'ai rempli des dossiers, des appels à candidature, dont un chapeauté par Occitanie en scène. Donc le projet s'appelle Bispectatif, c'est un projet européen qui rassemble une quinzaine de théâtres et de partenaires dans plusieurs pays d'Europe. Et l'idée, c'était de placer des spectateurs en tant que comité de spectateurs décisionnaires de projets participatifs dont une première étape de création devait se faire en itinérance dans des pays. Et donc, nous, on a adapté et inventé un projet qu'on avait déjà un petit peu dans le coin de notre tête. Et on a imaginé justement une sorte de parcours européen, une itinérance de création théâtrale avec des adolescents et des adolescentes de plusieurs pays d'Europe.
Ah oui, alors on va décortiquer un peu tout ça. Vous êtes beaucoup intéressé un temps à l'autrice Annie Ernaux. Vous avez créé plusieurs spectacles. Là, c'est vraiment quelque part une page qui se tourne.
Alors, je ne le vois pas comme une page qui se tourne, mais plutôt comme une
évolution,
une extension.
Comme une extension.
Une extension, donc c'est-à-dire un second livre autour du travail d'Annie Ernaux, à savoir, donc en effet, on a travaillé autour de son roman Fleuve les années, qui est son histoire à elle, qui raconte sa vie des années 50 jusqu'au début des années 2000. On a été jusqu'à aussi créer des petites formes adapté ou inspiré par ces textes. Et puis là, aujourd'hui, la compagnie s'est posée autour de cette question. Justement, dans les années, Annie raconte son histoire à elle. Ça s'arrête en 2007. Son livre Les années est publié en 2008. Quid de la génération Z? Quid de la mémoire collective et de la mémoire intime écoulée de 2008 jusqu'en 2022? Et comment et à partir de quoi écrire cette suite d'histoire?
Ah ouais, il y a carrément une cohérence là.
Bah oui, on est...
Je ne l'avais point vu. Merci Camille. Eh bien, écoutez, on va écouter un petit morceau de musique que vous m'avez envoyé. Il s'agit d'une création.
C'est une création sonore du compositeur-musicien Alistair Sinclair qui travaille avec nous depuis quelques années et qui a composé ce morceau pour donc, cette nouvelle création qui s'appelle Hashtag Génération.
On écoute sur Radio FM+.
We'll be right back.
Et oui, vous êtes sur Radio FM+, dans votre émission Scénorama. Alors, Camille Dalloz, elle est sympa cette musique, dites donc.
Bah, elle est très entraînante. Elle est
assez...
intergalactique et spatio-temporelle.
Oui.
C'est un voyage.
Voilà. Et donc, c'est complètement dans l'esprit de génération. Et je précise, génération au pluriel, mais entre parenthèses.
Tout à fait, puisqu'on s'est interrogé autour des modes de vie des adolescents et des adolescentes d'aujourd'hui, mais bien évidemment que c'est forcément relié à leurs parents, à leurs grands-parents et à leur place dans la société et à ce qu'ils vont devenir et les questions qui se posent sur le devenir.
Mais oui, mais alors du coup, décortiquez-nous un peu quand même ce truc, parce que, enfin ce truc, pardon, mais vous adressez à des enfants de toute l'Europe, comment travaillez-vous ?
Alors, le...
Là, vous, pour l'instant, vous récoltez des témoignages de jeunes. Expliquez-nous les étapes de travail. Alors déjà, attendez, le dossier a été accepté.
Le dossier a été accepté, on a été lauréat.
Super.
Donc en 2020, sur plusieurs dizaines de compagnies qui avaient candidaté d'Occitanie. Et donc...
Et ça veut dire des subventions.
Et ça veut dire un accompagnement financier, bien évidemment, qui nous a permis de novembre 2021 jusqu'en avril 2022, donc là je suis rentré il n'y a pas longtemps, on a parcouru avec la compagnie trois pays, d'abord l'Italie, en Toscane, à Sansepolcro, ensuite à Göteborg, en Suède, et enfin nous avons terminé notre périple à Nitra, en Slovaquie.
Voyage.
Comme le disait notre ami Désir, laisse.
Et alors, donc, vous étiez organisé déjà avant ? Vous aviez des contacts ? Comment ça
s'est passé ? Oui, donc de toute façon, à chaque fois qu'on arrivait dans chaque pays, qui durait, donc le voyage durait 15 jours, c'était accueilli, le projet et la compagnie étaient accueillis par un théâtre partenaire, donc qui avait été missionné, chargé de réunir un groupe d'adolescentes et d'adolescents de 14 à 18 ans, parce que c'était vraiment notre tranche d'âge qui nous intéressait. Et donc, avec ce groupe d'adolescents et d'adolescentes, on a travaillé sur un module de workshop, de labo et de stage qui durait 25 heures, étalé sur à peu près 15 jours. Et donc, l'idée, c'était de traverser avec eux toute une série d'exercices autour de leur mémoire intime fondue dans leur mémoire collective. Ce n'est évidemment pas anodin, puisque c'est cette démarche-là qu'Annie Ernaux travaille et traverse dans ses textes. Et donc, à chaque fois, ça a donné lieu à des restitutions, des spectacles qui ont eu lieu, dont les adolescents ont été les auteurs, les autrices, et les acteurs et les actrices. Donc, ils ont raconté leur vie et la traversée de cette dernière décennie.
Ah oui. Et alors du coup, que retenez-vous particulièrement de ces témoignages ? Qu'est-ce qui en ressort ? Et est-ce que suivant justement les pays, c'est différent ? Les problématiques sont différentes ?
Alors bien évidemment qu'au niveau culturel, les adolescents et les adolescentes n'ont pas du tout les mêmes références. Il y a plein de questions, il y a plein de réponses plutôt qui nous ont fournies, qui étaient très diverses d'un pays à l'autre, puisque forcément en Slovaquie, les jeunes n'ont pas la même histoire et le même ancrage social, culturel, historique, familial aussi que des jeunes d'Italie. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un dénominateur commun qui est l'adolescence et cette traversée de tous ces questionnements autour de la construction de soi, autour de la construction sexuelle, de la construction sociale et familiale. Et donc c'est ça qui nous a vraiment intéressés, à savoir quelles étaient plutôt les choses qui les rassemblaient autour des questionnements qui pouvaient se poser quand on est adolescent et toutes les choses aussi qui les différencient.
Alors du coup, par exemple, qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les différencie ?
Ce qui les rassemble très clairement, hein, c'est comment on se construit, qui on est, comment on cherche à devenir quelqu'un dans une société, comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de soi, qu'est-ce qui est difficile à délivrer. Et puis, en même temps, ce qui les diffère vraiment, c'est qu'en effet, le terreau sociétal n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que des gamins, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, c'est un échantillon, donc ce n'est pas une vérité absolue. Mais en tout cas, d'un pays à l'autre, ça varie sur, par exemple, l'impact de l'enseignement religieux, la liberté sexuelle, comment on en parle, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui se dit dans les familles. Toutes ces choses-là, quand même, qui touchent à la sphère sociétale, vraiment divergeaient beaucoup d'un pays à l'autre.
Et là, vous avez récolté tous les témoignages ?
Alors, on a entendu énormément d'adolescents et d'adolescentes, et ce qui nous a beaucoup touchés, et c'est maintenant là, tout le travail qu'on est en train de faire en résidence de création à la Bulle Bleue, bah, c'est de, non pas de compiler, parce que l'idée, c'est pas de faire un spectacle juste où on reprend la parole des adolescents, c'est pas un spectacle documentaire, mais c'est un spectacle documenté, dans le sens où on prend toutes ces histoires-là, toutes ces témoignages et ces récits sensibles de la génération Z, et puis on les passe par le filtre de qui nous sommes, à savoir la génération Y, et donc le spectacle hashtag génération est un spectacle qui sera le regard que nous, adultes de 34, 35, 36, 37 ans, portons justement ou avons pu porter sur cette génération-là.
D'accord. Et alors, est-ce que on peut dire que cette génération représente la fin de quelque chose ou alors un nouveau départ, hein,
alors,
par
la
rapport
fin...
à tout ce que vous avez recueilli
En tout cas, sur l'idée de la fin d'un monde, c'est vrai que moi, j'ai 34 ans. Je me revois adolescent dans les années, fin des années 90, début des années 2000, de comment j'ai traversé cette période et dans quel monde je vivais à cette époque-là. Et je me dis quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont assainies, en tout cas dans la prise de parole, grâce à tous les mouvements de libération de la parole qu'il y a pu y avoir sur ces 5-8 dernières années, ne serait-ce que sur le plan de la sexualité. Et de voir à quel point aujourd'hui les adolescents, les adolescentes utilisent des mots, des codes, des langages qui n'étaient pas du tout les nôtres il y a 15-20 ans, déjà rien que ça, c'est l'entrée dans un nouveau monde, ou alors si c'est pas un nouveau monde, c'est une porte tridimensionnelle d'un autre univers.
On va faire une petite pause musicale pour Génération. Rappelez-moi le compositeur, j'ai oublié le
créateur. Alistair Sinclair.
Yes. Donc à découvrir là. Alors c'est dans le cadre du warm-up. Hein. Donc tous les spectacles du warm-up durent 30 minutes et ce sera dans l'espace Mico Coulier.
Tout à fait.
Voilà.
À 17h30 le samedi 11 juin.
Voilà. Alors là, donc vous sortez en fait d'une semaine de résidence, Camille.
Alors pas qu'une. Du coup avec le on va dire le calendrier très resserré dû aux annulations, reports et tout. Là, on se retrouve depuis 3 semaines à être à chaque fois presque dans des lieux différents. Il y a 2 semaines, on était à la scène nationale d'Albi. Là, on était à la Bulle Bleue. On va être au Hangar. On va être aussi au Chiasma et au Théâtre de l'Albarède. Et du coup, la création totale de ce spectacle se fera le 13 juillet au Théâtre de l'Albarède à Ganges lors d'un grand meeting européen. Et en effet, il y a le warm-up le 11 juin qui nous sert de tour de chauffe et de présentation de cette maquette de 30 minutes.
Et mais oui, voilà, c'est ça. Mais donc, là, on va avoir une maquette de 30 minutes, mais c'est quasi, votre spectacle est quasi terminé, là.
Pas du tout, oh non, pas du tout.
Non, vous jouez à l'Aldebarède bientôt.
Ben oui, mais on travaille dans l'urgence, la condensation de toutes ces énergies et on crée un spectacle en 2 mois, mais bon, c'est un projet aussi qu'on a en tête depuis plusieurs années, donc on a des pistes, des idées et des choses très claires.
D'accord. Et alors, oui, je ne sais plus si on en a parlé, excusez-moi. Génération écrit au pluriel, avec, voilà, et le S entre parenthèses.
Eh bien, c'était l'idée, justement, qu'on ne raconte pas, on ne fait pas le récit que de leur génération à eux d'adolescents, mais que ça, forcément, ça se contamine à travers les histoires passées de leurs parents, de leurs grands-parents, et puis aussi de qui ils souhaitent devenir dans la société de demain, et quelle sera la société de demain.
D'accord. Et alors, qui va interpréter ces témoignages? Et voilà, quelques mots sur la scéno. Je sais qu'il y a de la vidéo aussi.
Alors, c'est Bastien Moline, qui est interprète et comédien de la compagnie, qui sera le porte-parole de cette génération, accompagné au plateau d'Alistair Sinclair, qui créera la musique en direct et en live, avec des vidéos de Paolo Sclar, des vidéos en live, en mapping, qui représenteront aussi des extraits sonores et vidéos des témoignages qu'on a récoltés à travers les différents pays. Et donc, la scénographie est une sorte de cube, un cube transparent, une boîte de Pandore, une boîte à souvenirs dans laquelle vont émerger toutes ces histoires par bribes pour représenter au mieux la multiplicité des pensées adolescentes.
Yes. Écoutez, hâte de vous voir. Donc, Génération, c'est ce samedi, c'est samedi prochain, le 11, à 17h30 à l'espace Mico Coulier du Domaine d'eau, durée 30 minutes. Toutes les informations sur le site du Printemps des Comédiens. Camille, belle continuation. Et du coup, rappelez-nous la date en juillet à l'Aldebarade où on pourra voir la première.
Eh bien, ce sera le 13 juillet.
À noter direct dans nos agendas.
Exactement.
Merci Camille.
Merci Annick.
Alors, voilà, une toute petite pause avec la musique générique. Et puis, je vais demander à notre chère Adeline, qui travaille avec Pascal Jean-Jean et qui nous reçoit merveilleusement bien. Donc, Adeline s'occupe de la presse, des relations presse. Hein. Voilà, on fait une petite pause. Et puis, donc, elle nous dira les programmes à voir ce week-end. Et oui, et la surprise, enfin la surprise, j'avais complètement oublié, c'est que Camille a prévu de nous lire un petit extrait de Génération, alors on l'écoute de suite.
Le 12 janvier 2023, 8h14. Dès l'apparition des premières lueurs du jour sur les collines de la Città de Castello, si le soleil percera l'horizon de la Grande Motte et viendra taper sur les barres d'immeubles de Nitra, la majeure partie de la Suède, quant à elle, baignera encore dans l'obscurité. Il faudra attendre très exactement 11h48 pour sortir de cette pénombre ambiante, profiter d'une faible lumière d'hiver durant quelques heures avant de se replonger vers 15h dans une nuit totale d'une durée de 18h. Mis à part les données fiables de cet éphéméride, rien n'est moins certain du déroulement de cette journée pour qui la vivra. À part peut-être que, quand la sonnerie retentira, Constance aspirera sa première bouffée de cigarette devant la grille. Susanna soufflera dans ses mains pour se réchauffer et Alessia se rongera les ongles jusqu'au sang dans l'attente de ses résultats. Alors que le réveil d'Anna n'aura pas sonné comme prévu, Hugo dépensera 75 couronnes pour son hot dog matinal au 7-Eleven. Quand Lucie postera un selfie, Benjamin likera son poste à la seconde même où elle le publiera. Réfugiée sous un abribus, Ali entendra pour la première fois de sa vie cette phrase « C'est pas toi, c'est moi ». Tandis que Kylian roulera sa première pelle sous le regard moqueur d'une équipe de chantier, le réveil d'Anna ne sonnera toujours pas.
Bravo, oui, on retrouve bien cette génération. Merci Camille, merci beaucoup. Alors Adeline, donc voilà, nous sommes jeudi, l'émission est enregistrée au Domaine d'eau, mais elle sera diffusée donc demain, vendredi à 11h, avec rediffusion le même jour à 20h et le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur Radio FM+. Alors quels sont les spectacles à venir ce week-end?
Alors le vendredi 3 juin, on aura
ce vendredi-là,
du coup, on aura la nuit Molière avec le ciel, la nuit et la fête du Nouveau Théâtre Populaire.
La fameuse nuit qui dure combien d'heures?
Alors 6h30 avec entr'acte.
Voilà. Et donc
voilà. en trois parties avec le Tartuffe, Don Juan et Psyché.
Voilà, et donc ça c'est à l'Amphido.
À l'amphithéâtre, c'est ça.
Est-ce qu'il reste des places? Parce que ça va être une sacrée nuit, là.
Il reste des places. On peut encore réserver.
Nos auditeurs peuvent venir, même ils viennent directement à la billetterie.
À la billetterie, c'est ça. Oui.
Bon, génial.
Ensuite, on va accueillir durant le week-end From Outside In, Phèdre et, comme vous l'a dit Léa Drouet, Violence également, qui sera là du 3 au 5 juin, donc du vendredi au dimanche.
Alors, Phèdre, c'est une...
Au Théâtre d'Eau. Qui sera au Théâtre d'Eau, des places encore disponibles à la billetterie, pareil.
Voilà, une mise en scène de Georges Lavaudan.
C'est ça, une création.
Avec notamment Maxime Tafanel. Maxime ! Qui était nominé au Molière, mais bon, qui a failli avoir un prix quand même. Bon, il n'était pas loin, il n'était pas loin.
Et qui présente aussi à volonté dans le cadre du Warm-up.
Oui, tout à fait. Ouais. Et ensuite, donc
on aura aussi le 4 juin La Rose et la Hache, la projection, et Radio M de Robert Cantarella. Et après, on accueille également Les Gros Patinent Bien, spectacle qui a été primé Molière de Théâtre Public, qui seront là le 4 et 5 juin, donc samedi et dimanche.
Bah écoutez, c'est parfait, Adeline. Un grand merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci donc à Stéphane et William. Ici présent, Stéphane à la technique. Un grand merci à toute l'équipe du Printemps des Comédiens. Et puis, écoutez, à la semaine prochaine et bon spectacle. Au revoir.